Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est la semaine des bonnes nouvelles. Si vous avez un iPhone 15, sa batterie vient comme par magie de gagner en espérance de vie. Après de nouveaux tests, Apple a revu largement son estimation de vieillissement. On va détailler ça avec Christophe. Dans les autres bonnes nouvelles de la semaine, e-message va bientôt bénéficier d'un chiffrement encore plus sécurisé. Apple lance une nouvelle app dédiée aux résultats sportifs et une rumeur de bac connecté Apple refait surface. Nous sommes le samedi 24 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de l'ouverture du MWC, le grand rassemblement annuel de l'industrie du mobile. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, très bien et toi ?
Ça va bien, ouais. T'es excité par l'ouverture du MWC ?
Ah, la MWC existe encore ? Petite question, est-ce que c'est toujours à Barcelone ou pas ?
C'est toujours à Barcelone, ouais.
D'accord,
oui, bon, oui. Bah, ça n'a pas bougé.
À l'époque, ça avait un petit intérêt parce qu'il y avait des essais privés de Formule 1, mais maintenant que c'est plus à Barcelone, pas du tout intéressé, pas du tout excité. Ouais.
Non, même Samsung boude le MWC, fait ses événements maintenant à part, donc c'est vrai que l'intérêt est moins fort qu'à une époque, ouais.
De toute façon, on ne dira jamais assez, mais dans un monde post-Covid, ce type de salon a quand même un petit peu de mal à se réinventer.
Eh bien, nous, on va parler cette semaine exclusivement d'Apple dans cet épisode de Sortie de Veille. Et on commence par une bonne surprise. À l'occasion de l'arrivée d'une petite nouveauté concernant la gestion de la batterie dans la dernière bêta d'iOS 17.4, Apple a annoncé une nouvelle estimation du vieillissement de la batterie des iPhone 15. Alors jusque-là, Apple a indiqué que la batterie des iPhone 15 était conçue de manière à conserver jusqu'à 80% de sa capacité initiale au bout de 500 cycles de charge complet. Et maintenant, ce n'est plus 500 cycles, mais c'est 1000 cycles. Donc le vieillissement est énormément freiné. Comment c'est possible une telle différence ?
Tout d'abord, j'ai bien envie de te parler de la batterie de mon iPhone 14 Pro, donc il y a un peu plus d'un an, voilà. Sa capacité est à 88% de la capacité maximum. Voilà, c'est déjà un peu bas, je trouve. On avait fait un appel à témoins et apparemment, je suis tout sauf un cas isolé. Donc, tant mieux que l'iPhone 15 progresse à ce niveau-là, mais c'est sans doute lié à l'USB-C qui doit tout changer, je pense. Hein. plus sérieusement, on avait noté qu'Apple avait changé des choses au niveau de la gestion de la batterie avec l'iPhone 15. On peut par exemple bloquer la charge maximum à 80% si on le souhaite.
Ouais.
Et de manière générale, on a évoqué quand même que la batterie en ce moment est un gros chantier chez Apple et qu'a priori, dans les générations qui viennent, il y allait avoir de grosses innovations dans le domaine. D'ailleurs, il se murmure que la batterie, l'autonomie de l'iPhone 16 pourrait être record. Bon, bah, quoi qu'il en soit, c'est un vrai argument marketing. J'espère que Apple va s'en féliciter. Et j'espère aussi qu'elle va en faire un bon usage et surtout faire en sorte que ces améliorations se retrouve dans tous ces produits, et notamment les produits entre guillemets jetables, à commencer par les AirPods ou même l'Apple Watch. Voilà, ça, le fait que non seulement maintenant, enfin, jusqu'à présent, on a quand même des produits qui, on va dire, d'un point de vue hardware, sont capables de tenir bien plus longtemps qu'à une époque. Et voilà, et on va dire que le maillon faible, c'était la batterie. Bon, la batterie, dans la plupart du temps, se change. Mais bon, si on peut bénéficier d'un appareil plus longtemps sans changer la batterie, c'est, voilà, tout le monde est content, je pense.
C'est clair, ouais. Et donc Apple a réévalué là, l'autonomie, enfin la vieillesse, on va dire, de la batterie de l'iPhone 15, mais elle est en train aussi de refaire des tests sur les iPhone 14 et les précédents. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, dans les semaines ou les mois à venir, on va avoir aussi une meilleure estimation du vieillissement des batteries des iPhone précédents. Et peut-être des autres bonnes surprises comme ça, on va voir ça. En tout cas, une autre bonne surprise qui a lieu cette semaine, c'est un renforcement de la protection des e-messages. À partir d'iOS 17.4 et de macOS 14.4, e-message va utiliser un nouveau protocole cryptographique qui est présenté par Apple comme étant le plus sécurisé au monde, pour un protocole qui est déployé très largement. Alors sur une échelle allant de 0 à 3, sachant que 3 étant le plus sécurisé, ce protocole se situe au niveau 3 selon Apple. Le protocole de signal qui faisait figure jusque-là de référence est de niveau 2. Alors Apple parle d'un protocole post-quantique. Qu'est-ce qui va changer pour nous ce protocole, Christophe ?
Ah, quantique, ça claque, hein ? Je pense qu'il faut retenir avant tout, enfin, en tout cas l'intérêt de ce nouveau protocole, c'est qu'il a été conçu pour rendre impossible la vie des pirates qui récupèrent des données et qui ont en théorie tout le temps devant eux pour les déchiffrer. D'ailleurs, enfin, le terme quantique qu'Apple utilise fait allusion à cela. L'informatique quantique, elle est censée en théorie pouvoir faire voler en éclats les systèmes de chiffrement actuels. Mais a priori, pas celui d'Apple qui a été pensé dans cette optique. Bon, enfin, le jour où on y sera, on en discutera. Sa mise en place sera progressive avec le déploiement donc, des mises à jour qui doivent intervenir maintenant, on va dire, d'ici une semaine ou deux, de iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 et WatchOS 10.4, et sans doute aussi de VisionOS, hein, tant qu'on y est. Par contre, la question que je me pose, c'est comment vont se passer les échanges avec des personnes qui sont bloquées sur d'anciennes versions d'e-messages, parce que leurs téléphones sont par exemple bloqués sur iOS 15 ou iOS 16. Parce que dans ce cas, Apple claironne que e-message est, avec ce nouveau protocole, le système de messagerie le plus sécurisé au monde, devant Signal. Mais voilà, si avec des personnes utilisant des vieilles personnes, des vieux protocoles d'e-message, tu restes sur l'ancien protocole, il y a quand même un sacré trou dans la raquette.
Autre chose qu'on n'avait pas vu venir, c'est une application Apple dédiée aux résultats sportifs. Apple a lancé cette semaine une app nommée simplement Apple Sport, qui permet de voir les résultats de plusieurs compétitions sportives. L'app n'est disponible que dans les pays anglophones pour le moment, mais on peut déjà suivre la Ligue 1, ainsi que d'autres championnats de foot européens. C'est sympa de la part d'Apple, mais pourquoi ils sortent cette app ?
Bah, quand tu t'appelles Eddie Q, que tu travailles au sein d'Apple depuis plus de 30 ans, t'as bien le droit de te faire un petit plaisir, non ? Que t'aimes le sport, donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Ça ressemble à ça, oui. Hein.
Mais ceci, c'est pas totalement une surprise, parce qu'ils avaient déjà montré un certain intérêt pour ces histoires de score, notamment dans le cadre d'Apple News Plus. Oui, Apple News Plus aussi, un produit qui n'existe qu'aux États-Unis.
Ou même Apple TV, sur l'app Apple TV aux États-Unis, tu as une section dédiée au sport.
C'est ça. Il y a un vrai travail de fond. Ouais. Voilà. Bah, une chose est certaine, il y a certains éditeurs d'app qui vont faire la tête, hein, parce que l'offre est déjà nombreuse dans ce domaine. Alors, on va peut-être bientôt parler de Sherlocking. Bon, comme tu le disais, pour l'instant, il faut un compte App Store US. Alors, je n'ai pas pris le temps de l'attester, mais j'ai lu les commentaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette application, quand même, a le même syndrome que Journal. Elle est sortie sans doute bien trop tôt. Elle est très, très, très minimaliste en termes de fonctionnalités. Il y a quand même des choses qui sont quand même assez surprenantes quand on s'appelle Apple et qu'on fait une telle application. Alors, bon, l'intérêt de ce genre d'application, c'est de pouvoir suivre des scores en direct. Voilà, vous n'avez pas le temps de regarder un match de foot, mais vous voulez savoir quand est-ce que le score évolue, bah, c'est vrai que c'est très pratique, ce type d'application pour ça. Mais manque de chance, Apple Sport ne gère pas activité en direct, ce qui est quand même un petit peu dommage. Il y a aussi, alors, dans le monde qu'on est, quand on va regarder un match de foot, c'est compliqué, parce que vous vous dites, tiens, je regarderai bien ce match-là, mais vous ne savez pas qui le diffuse, à quelle heure, ce genre de choses. toutes les applications de sport vous disent « Ah, bah ce match, il est donc à 18h45, vous pouvez le regarder, je sais pas, sur Canal+, DAZN ou Bein. » Eh ben non, ça, l'application d'Apple ne le fait pas. Et puis, bah, ça, c'est encore voilà, la petite cerise sur le gâteau. Évidemment, Apple a oublié de faire une petite cerise sur l'Apple Watch. Parce que avoir ce type d'application sur la montre, c'est encore mieux. Bref, si certains sont un petit peu déçus de ne pas pouvoir l'installer sur cette application, je crois que c'est pas grave. Il est urgent d'attendre une bonne mise à jour d'ici quelques mois. On espère.
Oui, je l'ai installée, j'ai essayé rapidement. Alors effectivement, elle est assez jolie, mais elle détonne par rapport aux autres applications d'Apple. L'ergonomie est pas du tout pareille. Donc c'est un peu bizarre, les gestes par exemple pour revenir en arrière, t'en as pas, faut naviguer de façon différente, et puis il manque beaucoup de fonctionnalités, oui les activités en direct, c'est vraiment bizarre que ça se voit pas à présent dès la V1. Et puis EDQ disait que il y avait aucune application qui permettait de simplement de voir les scores en direct, il y en a une qui est excellente qui s'appelle Flash Score. C'est pas aussi joli que Apple Sport, mais la base de données est vraiment énorme. Tu trouves toutes les compétitions de tous les sports, de tous les pays, et t'as beaucoup plus de fonctionnalités comme des news, des choses comme ça. Donc c'est sympa de voir qu'Apple se lance sur ce créneau, mais il y a encore du gros boulot à faire pour que ça tienne vraiment la route.
Eh bien, une chose est certaine, c'est qu'EDQ vient de te démontrer que le moteur de recherche de l'App Store est une catastrophe. S'il pouvait s'en occuper, ce serait pas mal.
On termine le tour de l'actu avec le retour d'une rumeur sur un hypothétique produit Apple. D'après le site coréen ET News, Apple prépare activement le lancement d'un anneau connecté. Alors, Apple a déposé de nombreux brevets pour ce type de produit. Des fois, c'est pour servir de dispositif de contrôle pour un autre appareil. Et des fois, c'est pour proposer des fonctions de santé directement. Alors, il y a déjà quelques fabricants qui se sont lancés sur le marché des bagues connectées. Et Samsung a récemment officialisé un prochain produit qui s'appelle le Galaxy Ring. Mais sachant qu'Apple propose déjà l'Apple Watch et qu'il y a des rumeurs de fonctions de santé pour des prochains AirPods, est-ce que tu crois vraiment, Christophe, qu'on a besoin d'une bague connectée Apple ?
Des fois, il y a des rumeurs qui sortent de nulle part et des fois, il y en a qui ont une certaine consistance. Et celle-ci, on le voit avec les brevets. C'est un domaine qui semble intéresser Apple. Alors, l'Apple Watch, c'est bien, mais c'est pas une solution universelle. Il y a des gens qui préfèrent d'abord porter des montres traditionnelles ou ne pas en porter du tout, ou qui en tout cas n'ont pas envie de s'enquiquiner avec un objet qu'il faut recharger à tout bout de champ. Ça, on l'entend quand même très fréquemment chez les gens qui ne possèdent pas d'Apple Watch. De ce point de vue, une bague, ce pourrait être intéressant parce qu'on peut imaginer que malgré tout, sans écran, elle pourrait être capable de fonctionner pendant quelques jours, voire même un peu plus, peut-être, disons, 2-3 semaines.
Après, je pourrais te dire la même chose pour la bague que pour la montre. Il y a des gens qui ne veulent pas porter de bague non plus, parce que c'est embêtant, quoi.
Oui, bah, mais voilà, mais il y a peut-être des gens qui, malgré tout, veulent suivre un petit peu leur santé et se disent, ouais, c'est peut-être moins envahissant qu'une montre, c'est possible.
Ouais.
Ce qui est noté, c'est le business model opéré par la concurrence. Souvent, c'est je te propose une bague pas trop chère ou éventuellement un bracelet, mais je te fais payer un service associé. Sachant qu'Apple travaille, paraît-il, depuis des mois sur un service orienté sport, bien-être, santé, dopé à l'intelligence artificielle, un service qu'on imagine qui serait payant, tout cela ne me paraît pas totalement farfelu. Donc, après, à voir si Apple franchira le pas. Mais je pense que c'est quelque chose à ne pas perdre de vue. Ce qui m'intéresserait de voir, c'est est-ce qu'ils vont arriver à faire... C'est soit l'Apple Watch, soit l'Apple Ring, soit est-ce qu'ils vont être malins et vicieux de faire... Ce qui est encore mieux, c'est de porter à la fois une Apple Watch et une bague Apple. Comme ça on sera vraiment marié avec Apple.
Ah là, c'est sûr. Et puis avec en portant un Vision Pro aussi sur la tête.
Non, mais justement, il y a un point qui est assez intéressant qu'il faut quand même noter, c'est que dans l'histoire d'Apple, on est quand même dans une époque où Apple n'a jamais été en mesure de lancer autant de nouveaux produits différents à court ou à moyen terme. Il y a cette histoire de bagues. On parle quand même beaucoup en ce moment de ce fameux HomePod avec écran... on a l'impression que ça va venir et que... Alors, on ne sait pas si c'est le même produit ou pas. On parle aussi d'un dock pour iPad avec HomeKit. Enfin, il y a quelque chose autour de tout ça.
Ouais.
On entend aussi quand même parler, malgré tout, avec de manière assez sérieuse, mais peut-être pas tout de suite à court terme, de ces histoires d'écran pliable qu'on verrait évidemment dans un premier temps sur un iPad. Donc voilà, le futur...
Et puis la voiture, à plus long terme aussi...
Voilà, ouais, tu m'enlèves le... tu me coupes la foule pied. Mais bon, alors la voiture, on en parle, mais voilà, je parlais de court ou de moyen terme, je ne sais pas si
oui,
ce
sont les... long terme, là.
Voilà, mais oui, évidemment, ouais.
Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et à la semaine prochaine pour un prochain Sortie de Veille. Salut à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.